lui, Tatrel racontait l'histoire de Cléo, une jeune fille humaine vivant dans les ruines d'un théâtre à Paris. Cléo, qui, dans toute son existence, a appris que les hybrides, donc des mutants, mi-hommes, mi-animaux, étaient ses ennemis. Et en fait, elle va se rendre compte, Cléo, qu'elle possède le même tatouage qu'une de ses mutantes, une femme élue. Et il va partir en fait en quête de cette jeune femme. Et voilà, donc Nuit tatouée, c'est un roman sur aussi sur les tatouages, sur les contes, sur évidemment le rapport à l'autre et l'amitié.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti alors quand en 2012 on vous a appelé pour vous dire vous êtes dans la sélection du prix Imaginal des collégiens d'abord, et après vous avez on vous dit vous êtes la lauréate du prix.
Alors pour la sélection, j'étais absolument ravie parce que déjà c'est toujours très très agréable de. Alors. Et en plus cette année-là, il y avait aussi Jean-Luc dans la sélection avec Le Dernier Hiver qui est un excellent roman que je vous recommande. Et donc j'étais ravie parce que c'est l'occasion de rencontrer des gens, parce que c'est Épinal et les Imaginales et qui est un festival qui me tient tout particulièrement à cœur. Et là, c'est dans le côté rationnel. Après, j'ai appris que j'avais le prix, donc j'ai commencé à hurler comme une hystérique au téléphone, tant ici, comme ça, voilà. Et après, en montant sur scène, donc c'était sur le mail au Magic Mirror 1, j'avais du genre essayé de préparer quelque chose, un peu, je remercie tout le monde et tout, et j'ai fondu en larmes. Voilà. Donc c'était là, on te met dans l'irrationalité totale, et c'est vrai que c'est pour moi un des meilleurs souvenirs de prix, en tout cas de prix de lecteur que j'ai. Et aussi parce que je pense que vous avez fait pareil cette année, le lauréat reçoit un livre d'or avec finalement plein de travaux d'élèves, et il est toujours ce livre d'or, il est toujours à mon bureau. Et quand j'ai un coup de blues et que je me dis mais pourquoi tu continues à écrire, ben, je le regarde et ça me redonne la pêche et ça me redonne envie d'écrire. Et je suis très 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 contente que vous soyez de plus en plus nombreux pour, en tout cas pour ces éditions de cette édition 2015. Vous êtes vraiment, je suis sûre qu'il y en a dehors encore, c'est génial.
On va essayer de parler bien fort hein, pour que vous nous entendiez. Si jamais ça baisse, n'hésitez pas à nous dire de monter un petit peu le son. Alors, Samantha Bailly, vous aussi, donc, êtes dans la sélection pour Souvenir perdu, étrangère qui était juste là. Comment est-ce que vous avez appris alors votre lui que vous participiez à la sélection comment ça s'est passé? Qui vous l'a dit voilà, qu'est-ce que vous avez pensé?
J'étais au Québec, et j'étais en voyage là-bas, et on avait très peu de connexion Internet en fait pendant ce voyage. Et dans un moment donné, une auberge de jeunesse, j'essayais de me connecter pour avoir ma dose de Wi-Fi, comme une droguée qui avait besoin de recharger. Et je vois en fait que je suis nominée sur le site des Imaginales, puisque les Imaginales avaient mis en ligne une liste. Et du coup, j'étais vraiment ravie, puisque pour la petite histoire, moi j'ai eu le prix Imaginal des lycéens en 2011. Horizon qui est ici. Et en fait, à l'époque, j'étais publiée chez un tout petit éditeur, c'était mes débuts, c'est un roman que j'avais écrit quand j'avais 17 ans. Et quand j'avais appris que j'avais eu ce prix, voilà, comme chez un maître, le livre d'or trône dans un endroit du bureau. Et ce livre d'or, je pense que c'est un parfait palliatif pour tous les auteurs dans les moments de coup de blues. Et du coup, voilà, j'étais vraiment ravie, puisque je sais que le fait que tous ces lecteurs qui sont collégiens et qui veulent, en fait, avoir le prix, on est vraiment ravis. Dans la sélection, je trouve que c'est vraiment génial de savoir que ce roman-là va faire son chemin et va être lu par autant de jeunes qui vont en plus débattre, avoir un avis critique, analyser, etc. Ben, je trouve que c'est une initiative géniale et que les professeurs, les documentaristes, bref, tous ceux qui participent à ce prix peuvent être vraiment très fiers de mettre en place un pareil projet.
Tout à fait. Jean-Luc, donc vous êtes dans la sélection, vous allez nous parler effectivement aussi de voilà, comment vous l'avez appris, qu'est-ce que vous avez ressenti. Et voilà, je voulais vous féliciter puisque vous avez eu le Grand Prix de l'Imaginaire pour D'Artagnan, donc un autre de vos livres. Voilà. Alors pour le prix Imaginaire des collégiens, voilà, comment ça s'est passé là?
Comme mes deux collègues, je pense, hein, comme un an, comme ça m'en parle. C'est-à-dire, j'ai regardé sur le site des Imaginaires une fois, en balançant sur le site, et puis j'ai vu que j'étais j'étais très content. Et c'est bon, c'était très chouette, comme tous les ans. C'est l'occasion de revenir, d'être là et de parler avec vous. Donc, et de revoir nos lecteurs qui, tous les ans, reviennent, on se retrouve, il y en a qui nous connaissent. Donc, c'est très, très agréable.
Et alors, pour votre texte, Prairie, le monde des cinq, alors, on prononce cinq ou cinq?
C'est une déformation du terme cinq.
Ah, okay, d'accord.
Parce que dans leur monde, en fait, mes personnages sont les seuls êtres à avoir cinq. Ils ont remarqué que dans leur monde, ils étaient les seuls à avoir cinq barres pour eux, ils en sont très fiers. Et puis, c'est un peu. Démarquer les autres et du coup ça se retrouve dans leur société est utilisée en cinq ordres, tout est organisé un petit peu de cette façon-là dans leur monde en fait, enfin, dans leur société.
Mais par contre, cinq, ça fait plus fantaisie, je trouve.
Voilà, le point de ça, le lecteur s'approprie le livre, il prononce comme il veut. En plus, c'est tout un jeu sur le langage en prairie, donc je me suis beaucoup amusé.
Alors justement, est-ce que vous nous parlez un peu de la genèse en fait de prairie, voilà, comment l'idée vous est venue, ces êtres humains miniaturisés, voilà, comment se.
Alors, il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, quand j'étais gosse, j'allais en vacances dans le sud de la France, dans les Cévennes. J'étais toujours fasciné par les animaux, de toute façon, et les insectes, ils nous fascinent. Et les insectes en particulier, c'est un autre univers, un autre portée. Quoi. Quand je vois, après, dans les films, au cinéma, on fait des monstres, des extraterrestres, etc. Généralement, ils prennent deux ou trois insectes différents, ils les mélangent deux insectes, ça fait toujours un peu peur aux êtres humains. Et en même temps, ça les fascine. Par exemple, dans la chambre où j'étais, il y avait des petits scorpions qui sortaient des murs. Hein, on adorait ça, mon cousin, on les ramassait, on les regardait, on étudiait voilà comment ils faisaient, tout ça, on les regardait sous les pierres, parce qu'il y avait comme bêtes, il y avait des libellules, il y avait des araignées monstrueuses. Hein. Je parle des trucs comme ça. Et ça nous amusait beaucoup. On trouvait ça fascinant, il y avait des insectes magnifiques aussi. Et donc pour ça, je me suis intéressé aux meurtres d'insectes. J'ai lu un ou deux livres dans une livre de science-fiction qui s'appelait La planète oubliée, où il y avait des insectes géants, etc., qui étaient assez sympas. Et après, ça m'a amené à m'intéresser aux insectes et aux meurtres des insectes. Voilà, par exemple, je parlais du film Alien tout à l'heure. Alien, c'est ni plus ni moins calqué sur certaines espèces d'insectes qui vont parasiter, pondre neuf. Il y a une petite bête chasseuse d'araignées, elle va dans les cailles des araignées, elle les sort de leur terrier, et une fois qu'elles sont sorties, elle les pique à la jonction des pattes pour détruire les centres nerveux, et elle les paralyse. Et elle pond une larve dessus dans son terrier. Et la larve va dévorer l'araignée en finissant par les organes vitaux pour qu'elle reste, si vous voulez, fraîche, pour que la viande ne se pourrissent pas. Et oui, mais c'était effroyable. Quoi. Dans aucun film de SF, enfin voilà, quand on voit un film de SF, on dit exagère, mais non, ça existe vraiment autour de nous dans la nature. Donc j'ai été fasciné par les insectes. Et puis après, il y a autre chose, donc ce monde, je me disais, mais si on était tout petit en plus, les lois de la physique, enfin ça ne pique pas différemment, enfin un petit peu par rapport à la taille, on peut tomber très haut sans se faire mal parce qu'on n'ira jamais assez vite. On peut glisser à la surface de l'eau, hein, puisqu'on ne percevra pas la pellicule de surface. Donc ça autorise plein de choses, et puis surtout ça me permettait de décaler, moi, dans un autre univers, dans un microcosme, la société humaine, et de l'étudier dans ses travers. Mais, par exemple, la Prairie est un livre un plaidoyer pour la liberté des femmes, dans cette société où elles sont enfermées au cœur de la cité, sous l'argument de la survie, parce qu'ils ont calqué leur société un peu sans modèle des insectes, mais surtout il y a des prêtres, qui dans leur monde, en fait, ils sont tout petits, c'est des gens qui ont été miniaturisés suite à une expérience qui a mal tourné, et donc 20 ans plus tard, les descendants de ces gens-là qui ne vivent que 2 ans, pour eux, c'est une durée normale. Eh bien, il y a des prêtres qui ont pris le pouvoir, qui ont dit voilà, avant ça, on était des géants, on marchait, les carapates, ils appellent ça les insectes, voilà, on marchait la tête au-dessus des carapates, on ne les craignait pas, mais on a péché, et donc notre pénitence, c'est ça, c'est maintenant, on est au milieu des carapates, ils vont nous dévorer, ils sont tout en état de siège, et donc il faut qu'on rédime nos péchés. Et donc évidemment, une femme qui ont été envoyées là-dedans, mais contre. Et donc, ils les enferment sous ce prétexte-là, au cœur de la cité, avec les rôle de reproductrice. Et donc, mon héros qui va arriver, ça va être comme ça, qui va faire exiter tout l'engrenage, qui va tomber amoureux d'une jeune femme de ce peuple-là, que son père fait passer pour un garçon pour lui éviter le lot commun. Donc, ils vont s'enfuir et ils vont semer les germes d'une révolution en plus dans ce peuple-là. Donc, ça permet d'étudier la société humaine en déplaçant les travers de notre société actuelle dans un monde imaginaire. On peut en parler plus librement. Parler du fond et non pas de la forme.
sélection, elle a été refusée. Donc, j'ai pleuré, mais je me suis remis au travail. Et j'avais laissé cette histoire un peu dans un tiroir. Et il y a à peu près 3 ans maintenant, je venais de finir pas mal de projets. À l'époque, je travaillais chez Ubisoft dans le jeu vidéo. Et je me suis dit, mais quand même, cette histoire d'île de Léviathan, évidemment, je n'écrirai plus ça du tout de la même façon. Mais le principe de base de cette utopie en autarcie qui cache un certain nombre de secrets m'intéresse. Du coup, je n'ai même pas regardé ce que j'avais fait avant. J'ai repris l'idée et je me suis mise complètement à réécrire. J'ai envoyé le premier tome du coup aux éditions Cyrus, qui l'a accepté. Et ensuite, j'ai passé un an à écrire le tome 2 et le tome 3 pour qu'on sorte le premier tome quand toute la trilogie était achevée.
Merci.
Charlotte, parlez-nous, si vous vous en rappelez, parce que c'est déjà loin, de ce qui vous a poussé à écrire Nuit tatouée, donc effectivement un univers post-apocalyptique dans un Paris qui s'est extrêmement transformé, et des humains qui se battent les uns contre les autres et contre des êtres qui ne sont plus tout à fait humains.
Ce sont des mutations, ce qui est le thème des imaginales. En fait, moi j'ai toujours été très très intéressée par les contes et par la matière des contes. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on trouve derrière l'histoire de la Belle et la Bête, qu'est-ce qu'on trouve derrière la Petite Sirène, que j'ai utilisé, non pas dans Nuit tatouée, mais dans la suite. La Petite Sirène, c'est aussi, c'est même l'histoire d'une jeune femme qui renonce à son identité par amour et qui accepte de se faire traiter comme une serpillère par un prince. Enfin, c'était vraiment tout ce qu'il y avait, voilà, tout ce qu'il y avait derrière. Et puis j'avais déjà travaillé sur une réécriture de conte avec la mort de la Bête, hein, qui était s'attaquait donc à Podan, mais dans un univers de fantasy. Donc ça, c'était vraiment pour la partie conte. Et puis j'ai envie de dire, au fond, l'humanité, les questions qu'on se pose et qui nous accompagnent toute notre existence. Et donc l'autre part, qui est le post-apo, je crois que c'est simplement que j'aime. C'est un style que j'apprécie, une esthétique que j'apprécie. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu La Route, qui est un très beau livre et un très très beau film. Et puis, j'avais envie de situer ça en Europe, de lire à chaque fois une histoire, un conte, un livre. Et j'ai commencé à faire mon univers comme ça, avec donc un point à Barcelone, un point à Paris, un point à Berlin. Et voilà, donc c'est comme ça que la série s'est construite.
Dans les trois textes les deux textes de la sélection 2015 et le texte 2012, qui est un thème qui est important, c'est la quête des origines. Est-ce que Charlotte, vous pouvez nous en parler, donc la quête de Cléo pour retrouver ses origines?
Ça, c'est bien, la salle 2012, ça, j'ai hyper loin.
Le tatouage,
le tatouage. Oui, en fait, je ne sais pas si je suis capable de répondre correctement à cette question, parce que c'est vraiment super loin. Alors, à la quête des origines, je crois que je vais laisser la parole sur le coup, parce que là, j'ai... Tu n'as plus vu que je réponds. Tu veux répondre pour moi, voilà, tu réponds pour moi, ça sera parfait.
Alors, ça ne monte pas. La quête des origines, donc, le personnage est amnésique. Donc, du coup, elle a tout à redécouvrir, en fait, sur elle-même, et notamment aussi sur les raisons pour lesquelles elle a atterri sur cette île, quoi, finalement.
Oui, alors, la quête des origines est multiple. Disons que le personnage amnésique, c'est quand même, en général, on va dire, un motif assez classique de la littérature de fantasy, puisque la personne qui a comme ça cette suspension de souvenirs nous permet de découvrir avec un œil neuf un univers. Là, en l'occurrence, c'est pas juste un prétexte, c'est vraiment que la vie d'ici, pour les diverses raisons que nous découvrons au tome 3, est une page blanche complète, et qu'elle va arriver sur cette île. Et ce qu'elle représente est quelque chose d'incroyable, c'est que c'est la première étrangère, c'est la première inconnue qu'on trouve sur cette île qui est en autarcie depuis des siècles. Du coup, évidemment, ce point extérieur qui arrive sur l'île va poser des questions sur l'identité de cette jeune femme, mais aussi sur l'île elle-même et sur son rapport au Léviathan, qui est ce monstre aquatique qui surveille l'île. Et ce monstre, il est assez ambivalent, puisqu'on ne sait pas si c'est un gardien protecteur qui est là pour préserver cette île et les habitants d'une menace extérieure potentielle, ou au contraire, si c'est juste après tout un animal, pas une divinité, un animal qu'il faudrait tuer, terrasser, comme le pensent certaines personnes sur l'île. Du coup, ça va vraiment être la quête de l'origine aussi des habitants de cette île. Et les souvenirs perdus, ce ne sont pas seulement ceux d'ici, mais en fait, ce sont aussi ceux de la mémoire collective des habitants qui finalement vivent dans une suspension, puisqu'ils ont accepté d'arrêter de comprendre, de chercher,
et d'être simplement voilà, d'écouter la tradition vivement. Donc ça va être cette double quête d'origine dans le roman. Jean-Luc, votre héros, Vincent, il revient sur les lieux de son enfance. Et en fait, il est missionné donc, pour retrouver le laboratoire où s'est mal passé l'expérience.
En fait, il est missionné pour retrouver le laboratoire, retrouver le fameux protocole, la formule qui permet de réagrandir les choses qu'on a miniaturisées. Ce qu'il va découvrir, c'est que finalement, la réalité est un peu différente de ce qu'il pensait. C'est-à-dire que ça n'a pas été une erreur, c'est pas une expérience qui a raté, mais visiblement, il y a d'autres choses qui sont en jeu. Voilà. Et ce qu'il qui va découvrir dans cette société humaine miniaturisée, pour ces gens, ne vivent que deux ans pour stimuler normalement des générations se sont succédées, c'est qu'ils ont intégré tout ça un peu à leur légende, à leur genèse, de leur univers, et donc des faits qui pour lui n'ont que 20 ans, enfin même pas, et en fait ils en ont fait voilà, toute une mythologie, en disant il y a des démons qui sont venus, qui nous ont attaqués, etc. Alors qu'en fait visiblement il y a d'autres personnes qui ont voulu s'en parler, donc tout ça fait partie de la genèse de ce peuple-là, qui pour lui sont des souvenirs assez récents, et lui, par contre il va petit à petit découvrir la vérité à travers la mythologie. Ces gens-là, ils découvrent le fin de l'histoire finalement. Mais eux, et en plus pour eux, il est lui-même le fait qu'il soit là. Et pour les prêtres, par exemple, c'est comme la scène. Parce que lui, justement, il prétend venir de là-haut, il prétend être un géant, alors que pour les autres, c'est peut-être donc ça met en l'air tout leur panthéon, et puis surtout tous les dogmes qu'ils ont mis en place. Voilà. Et alors, par contre, alors, je ne sais pas si je peux faire le pont, mais la mémoire est importante dans ce simulacre. Par contre, on a dans ce simulacre, puisqu'il sait le simulacre, et bien, clone de D'Artagnan dans ce monde-là. Par contre, il lui manque 20 ans de souvenirs de son original qu'il n'a pas mis à jour, en quelque sorte. Et donc, notre pauvre D'Artagnan, on va se retrouver à devoir retrouver les souvenirs de l'original pour comprendre pourquoi tout le monde le cavale après, parce que l'original qui était plus vieux avait découvert un complot, etc. Et le problème, c'est que là, par contre, ça pose la question de l'identité. Est-ce qu'on est juste la somme des souvenirs de quelqu'un? Parce que lui, voilà, finalement, qui je suis, moi? Je suis une autre personne ou je suis lui? Et si je me rentre ces souvenirs dans la tête, ce qui doit faire un moment pour poursuivre l'enquête en quelque sorte du patron original, est-ce qu'il ne se perd pas lui-même, est-ce qu'il ne devient pas quelqu'un d'autre, est-ce que c'est encore lui ou les souvenirs qui sont à lui ou à quelqu'un d'autre, ou est-ce que lui, il ne va pas falloir qu'il s'en affranchisse au bout d'un moment pour devenir la personne, la vraie personne qu'il peut devenir lui-même et pas simplement la copie, en plus d'un personnage aussi écrasant que peut être D'Artagnan.
Alors Jean-Luc, le livre est un bel objet aussi, avec des illustrations, des illustrations d'insectes, des explications sur leur mœurs, etc. Comment vous avez travaillé donc ce livre avec un illustrateur et l'éditeur, j'imagine?
Alors l'illustration à l'intérieur, c'est moi. Alors que ce que j'ai fait aussi. Non, ah oui, sur le premier, non, il m'a mis sur le second. Non, c'est moi qui m'en ai, je sais, c'est pas indiqué. Donc c'est moi qui fais les illustrations intérieures, hein, parce que je suis aussi illustrateur à mes heures, mais malheureusement, j'ai moins en moins de temps, mais j'aime toujours. Faire des illustrations de mes livres, j'aime bien pour m'approprier soit les héros ou des fois les créatures ou les monstres. Ça me permet moi de mieux les visualiser, de voir si ça fonctionne. Et alors après ça, c'est peut-être mon côté, dans une vie antérieure, j'étais enseignant. C'est peut-être mon côté enseignant qui ressort, où j'aime bien mettre quelques pistes. S'il y a des gens qui veulent aller plus loin, par exemple quand je parle d'espèces, en plus là, comme je dis, ce sont des espèces, des insectes qui existent vraiment. Vraiment comme ça, donc je voulais mettre à chaque fois la vraie créature à la fin, comment elle fonctionne, et puis des explications sur cet univers, sur, par exemple sur le langage de mes cinq, puisque je me suis beaucoup amusé avec la langue, comme ils sont très petits, leur vie ne dure pas très très longtemps, et dans leur monde, c'est un monde impitoyable, le monde des insectes, on regarde autour de nous, c'est la micro-seconde qu'on perd, voilà, pour dire une phrase ou pour donner une information, peut-être celle qui va faire la différence entre la vie et la mort, donc partant de là, leur langage s'est fait le reflet de cette nécessité, donc les mots sont écourtés, coupés, tronqués. Par exemple, c'est un exemple à un moment donné, c'est un matin, glacé, brumeuse avec glace de maths. Et donc tous les mots comme ça sont tronqués ou ils ne servent que par leur utilité. Il n'y a que dans les moments de calme ou dans l'intimité, pour le moment, qu'ils peuvent se laisser aller, faire une espèce de poésie, à broder avec les mots qui autrement vont être obligés d'être coupés, etc. Donc moi, ça m'a beaucoup amusé de faire ça et donc de développer tout ça et puis comment. Une société, finalement, on a besoin de clous et de vis parce que c'était menti, on a juste besoin de pôles. Ça suffit pour tenir même des constructions, des habitations. On peut imaginer un monde d'une architecture extraordinaire en partant de là.
Parce que vous dites que les insectes, comme ils sont vraiment très 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 petits, on a l'impression qu'ils collent par exemple au mur. Oui. Ou voilà, et en fait, non, c'est juste que leur poids.
Ben, le poids, voilà, et puis il y a une force d'attraction électromagnétique entre les objets qui a cette taille-là a une importance, mais non, ça ne marche pas du tout, malheureusement. C'est dommage, on pourrait vraiment monter par l'ignorance, qui s'appelle la force de Van der Waal, et en fait, qui permet aux mouches d'aller au plafond, au mur, parce qu'ils sont tellement violents. Mais les romans, s'ils courent assez vite, par exemple, peuvent courir sur une surface horizontale, et pendant quelques mètres sur une surface verticale, à repartir, ou sauter très très haut, par exemple, pour eux. Comme je disais, tomber de très haut, quand on voit une fourmi qui tombe d'une table entière, c'est marrant, c'est comme une falaise pour elle, c'est quand même. En fait, je vais vous dire, la fourmi n'a aucun mérite. C'est tout simplement qu'elle est tellement légère qu'à cause du frottement de l'air, elle ne pourra jamais atteindre de vitesse suffisante pour ce qu'elle impacte. Voilà. C'est merveilleux. Donc, du coup, ils deviennent des espèces de super-héros dans leur monde, disons, comme si. Bon, c'est assez amusant.
Samantha, il y a un thème qui est important dans Horizon et dans l'étrangère, c'est le poids de la religion. Ça conditionne beaucoup la façon dont les héros vont se positionner. Effectivement, est-ce qu'ils poursuivent la voie dominante de la religion ou pas? Et donc, c'est aussi une quête de liberté, quoi, en fait, pour certains de nos héros, non?
Oui, disons que la religion, c'est un prétexte, on va dire, globalement, pour parler du système et du rapport à la communauté, puisque dans les deux romans, mettant étrangère, la communauté et le fait de vivre ensemble est un thème clé, puisque cette île, Enfinia, c'est une forme d'utopie dirigée par un homme original qui, lui, voit le fait que plus il y a d'êtres humains ensemble, plus il y a des problèmes, en gros. Donc, il faut réguler, il faut contrôler, et si on laisse la liberté aux gens, on a le chaos, en gros. Il est sympathique. Et du coup, forcément, il y a toujours la question des règles en communauté, de on commence notre liberté, où elle s'arrête, etc. Donc, les personnages, puisque je ne vais pas vous faire un gros spoiler, vous l'avez dit pour la plupart, vont partir de cette île, ils vont trouver un moyen de s'en aller, et petit à petit, ils vont découvrir en fait tout ce qu'on leur a caché pendant tout ce temps. Et ce qui est intéressant, ça avait été de vraiment explorer ça sous l'angle du fait que les dirigeants de cette île pensent à bien dans le sens où ils essaient de préserver, ils essaient de contrôler avec, hélas, des intentions louables. Et quand on dit que l'enfer n'est pas avec bonnes intentions, parfois, la manipulation, comme c'est le cas, puisque ce dirigeant-là a quand même une grande volonté d'ascendance, en fait, sur les personnes de cette île, peut s'accompagner finalement de, on va dire, une volonté de contrôle assez grave et nuisible, alors que dans son esprit, il essaye, en tout cas, il pense qu'il a les réponses à tout et qu'il fait le bien autour de lui. Et du coup, ça pose cette question aussi de dans quelle mesure les personnages vont prendre leur liberté, vont aussi regagner leur identité, puisque la question de l'identité par rapport à l'île, une fois qu'on en sort, qui est-on quand on n'a connu qu'un seul endroit dans sa vie? Et finalement, c'est des choses qui sont transposables évidemment à notre propre monde, puisque je pense qu'en tant qu'individu, on a toujours cette tentation de la communauté, du groupe, de la volonté d'appartenance, et toujours du mal à se positionner en tant qu'individu, puisque le groupe peut très rapidement étouffer en fait notre personnalité. Donc c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup et que j'ai essayé d'explorer dans ces deux romans.
Charlotte, votre personnage, en fait, Najma, qui raconte l'histoire, est un personnage qui a des tatouages, qui raconte des histoires. Est-ce que c'était pas aussi un petit côté chez Razad qu'elle avait, puisqu'en fait, elle n'est pas le personnage, elle est capturée, mais elle n'est pas la personne qui devait être capturée, et elle le cache pour ne pas mourir. Est-ce que ce n'avait pas un petit côté comme ça?
Oui, complètement. C'était à partir du moment où j'ai décidé de travailler sur les contes, je me suis aussi approprié d'une certaine façon les mille et une nuits, et j'ai mêlé donc l'histoire de Scheherazade qui se retrouve dans les contes traditionnels de prisonnières du roi, et là Najma est récupérée par une bande de rebelles qui sont à la fois mutants, hybrides, quelques humains au milieu de Barcelone, et va effectivement raconter des histoires pour survivre. Et ces histoires naissent sur sa peau. Le tatouage a effectivement un rôle très très important dans la peau des rêves, qui est le nom du cycle. C'est à la fois, pour moi, disons que le tatouage, c'est à la fois un objet qui peut être, une marque qui peut être esthétique, mais c'est surtout une marque qui raconte une histoire, qui raconte un moment aussi. Je connais pas mal de personnes qui se font tatouer un élément parce que ça leur rappelle quelque chose, parce qu'ils ont besoin aussi de transformer leur corps, je dirais, à l'image
aujourd'hui, on a en fait trois auteurs professionnels qui sont là, c'est-à-dire que ce sont des écrivains à plein temps. Or, ce n'est pas si fréquent dans le monde de l'édition. Voilà. Donc, j'aimerais bien que vous nous parliez en fait un petit peu tous les trois de c'est quoi être un écrivain à plein temps, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients pour vous de ce statut.
Être écrivain, ben, là, les avantages sont nombreux, mis à part le fait que je pense qu'on ne peut pas décider d'écrire à plein temps, de devenir un écrivain professionnel sans passion, sans effectivement, comme le disait Jean-Luc aussi, un peu de folie. Mais je dirais que la première chose, c'est qu'on vit de ce qu'on aime. On crée des histoires, on invente des mondes, on réfléchit, on se documente. En fait, c'est vrai que bon, je sais que Samantha se documente beaucoup, par exemple, sur la psychologie, Jean-Luc sur l'histoire, les insectes. Moi, je suis en train de lire aussi des essais criminologie. Donc, on est tout le temps amené à se documenter, à réfléchir, à inventer des mondes, à finalement se donner aussi des défis, que ce soit des défis d'écriture. Voilà, ça, c'est vraiment le côté génial. Il y a le côté aussi, je trouve, poser le premier chapitre, écrire la dernière, écrire les derniers mots, le mot fin. Et puis, moi, je commence toujours par l'envoyer à des bêta-lecteurs, c'est-à-dire des personnes proches qui vont relire le texte et me dire s'ils ont aimé ou pas, qu'est-ce qu'il y a à modifier, est-ce que, voilà. Et il y a toujours un petit moment d'émotion, un petit point d'adrénaline qui est assez génial. Et voilà, et puis il y a les rencontres aussi donc avec vous, lecteurs, que vous soyez collégiens, lycéens, adultes, qui sont toujours, je trouve, des moments très enrichissants. Le côté plus négatif, c'est en fait ce pourquoi on n'est pas forcément fait, mais qu'on fait faire, qui est, et on en parlait hier, qui est l'aspect complètement commercial de l'écriture, qui est devoir négocier un contrat avec un éditeur qui vous fait dire que vous pouvez penser que c'est une faveur, alors qu'en fait, non, c'est juste que sans livre, enfin sans auteur et sans livre, il n'y aurait pas d'éditeur. Ça va être le fait du découragement, parce que c'est vrai qu'on écrit, tous énormément, et parfois on a des overdoses d'écriture, on est complètement vampirisé parce qu'on écrit, on est crevé, à plat, on a juste envie de temps en temps tout laisser tomber, de faire un autre métier. Mais c'est des avantages, on va dire, des inconvénients qui finalement sont assez peu de choses en regard de la liberté qu'on a, et voilà.
Bah, du coup, je rebondis sur ce que dit Charlotte, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, enfin, personnellement, c'est un rêve que j'ai depuis le collège, justement, depuis que j'ai votre âge. Vous savez, la petite feuille qu'on vous donne en début d'année en vous mettant en profession des parents, nom, prénom, date de naissance, que voulez-vous faire plus tard ou métier envisagé? Mais depuis la 6e, je mets écrivain. Seulement, moi, je ne savais pas du tout ce que ça recouvrait, en fait, puisque pour moi, c'était écrire des histoires. Sauf que après, ça, c'est notre vie d'idéal, c'est notre vie de rêve, où voilà, on a envie d'écrire son histoire, on a envie de les porter. Et puis, il y a une réalité qui est celle du monde économique dans lequel on vit et celle de système qui est celui de l'édition actuellement. Et je vais faire un petit jeu rapide, vous poser une question. À votre avis, combien un auteur touche de pourcentage sur un roman? Sur le prix de vente? En pourcentage? Alors, je vous préviens, c'est moins de 70%. Moi, je vais vous répondre. Je vais vous donner la réponse. Attendez. Un auteur touche entre 5 et 12% sur un roman. Et oui, parce qu'en fait, un livre, ce n'est pas que son auteur. Donc, vous avez l'éditeur qui va toucher une partie, mais vous avez aussi le libraire, et vous avez aussi encore un autre acteur qui s'appelle le diffuseur-distributeur, différents, mais qui sont en gros les personnes qui sont les commerciaux qui passent dans les librairies pour dire voilà ce roman, il sort à telle date, etc. Et puis il y a aussi le transporteur, voilà, qui va amener les livres, l'imprimeur, et qui est du coup lui sur les frais de l'éditeur. Mais en gros, tout ça pour vous dire que en vivre, c'est très compliqué, dans le sens où on touche un pourcentage assez faible sur les romans. Donc il y a un système, je rentre dans le côté pragmatique, mais ça vous donnera un peu une idée de comment ça fonctionne. Un auteur touche ce qu'on appelle un avaloir, un minimum garanti, donc il touche une somme d'argent pour ce roman-là. Autant vous dire qu'avant de faire un best-seller, il faut écrire pas mal de romans pour pouvoir en vivre, et que c'est difficile parce que, de fait, on est dans une contradiction, c'est-à-dire que l'écriture, elle se nourrit d'une nécessité, d'une spontanéité, d'une curiosité, d'une envie. Quand vous la passez dans le domaine de la contrainte pour l'alimentaire, naît quand même une tension assez forte qui va apparaître, et du coup, c'est jamais perdre, enfin, en tout cas, l'authenticité de ce que je fais, qui est de je veux raconter ces histoires-là, et je m'en fiche qu'on me dise que ça, c'est tendance, ça, ça marche, je devrais mieux faire ça. Non, je ne ferai pas des choses qui, pour moi, ne sont pas respectueuses de ce que j'aime ou pas respectueuses de mes lecteurs. Il y a toujours, je pense, cette tentation qui est. Il y a des gens qui font des études de marketing et qui vous expliquent que ça, c'est la tendance, ça, ça se vend bien, etc. Et donc, il y a un peu une résistance.
Mais on a tous l'impression, cette tendance, hein. À un moment donné, se dire, mais effectivement, pourquoi je ne fais pas ça? Et je crois que c'est le fait d'avoir des tripes et des choses à dire qui fait qu'on ne bascule pas, mais c'est difficile.
Alors, il n'y a pas très longtemps, ça me fait rire, parce que ce dont on parlait, j'avais fait, je crois que l'année dernière, j'avais fait un texte que j'avais mis en ligne sur Facebook qui s'appelait De la banane et de la littérature, de la question de la banane et de la littérature, hein, où je comparais un petit peu les deux. Et c'est vrai qu'on est un peu dans la même situation que la culture de la banane, c'est-à-dire que tout le monde vit du livre, les journalistes littéraires, les commerciaux, les éditeurs. Enfin, j'ai entendu que tout le monde vit du livre, sauf celui qui est à la base du livre. On va lui demander, mais vous n'avez pas un vrai métier à côté? Et des fois, on se retrouve comme ça, vous n'êtes pas un vrai métier. Quand je pense à tous les gens qui vivent grâce aux livres que nous écrivons, je me dis, c'est quand même gonflé de nous poser cette question. Il y a quand même quelque chose de pourri dans mon royaume. Et donc, des fois, c'est vrai que ça nous énerve un peu. Bon, ceci étant, en contrepartie, il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, quelque chose qui est très important, c'est que nous sommes libres. Nous sommes libres et nous faisons ce que nous aimons. Et on essaye en tout cas de vivre de ce que nous aimons faire, ce qui est quand même très 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 rare. Alors, je le dis à tous ceux qui sont là, si vous voulez gagner de l'argent, ne faites pas écrire.
Voilà. Vous pouvez écrire, vous pouvez écrire votre ami comédien, votre photographe, c'est la loose totale.
Il y a une minorité d'auteurs qui gagnent très bien leur vie, mais c'est vraiment une minorité. Pour vous donner un pourcentage affligeant, c'est que je crois que 5% des auteurs en France touchent des droits sur leur livre, c'est-à-dire on est 5% à toucher de l'argent après la vente de notre livre, hein, c'est un pourcentage après les ventes. La plupart, ils ne recouvrent même pas les avances qu'on leur a faites. Et sur ces 5%, il y en a encore très 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 peu qui en vivent vraiment bien. Il y en a quelques-uns qui vivent très bien, et puis après c'est la masse moyenne qui vivote.
On fait ce qu'on peut.
Mais on fait ce qu'on aime. Alors, tu parlais d'attention, c'est vrai que moi il y a quelque chose. À partir du moment, alors ce qui est bien quand on est écrivain justement à plein temps, mais c'est qu'on sait ce qu'on aime tout le temps, voilà, on est là par exemple, on peut venir ici, on écrit les livres qu'on veut, on est libre d'écrire ce qu'on veut. Ce qu'il y a, c'est que par contre, par rapport à des collègues qui moi sont encore enseignants par exemple, qui travaillent, ils me disent, moi c'est vrai que par exemple, ben, je peux refuser ce livre-là, moi j'ai pas envie de le faire comme ça, mais écoute, non. Et c'est vrai que donc, du coup, on a un peu plus le couteau sous la gorge, ou des fois on se dit, ben, on a plusieurs projets de livres, hein. Il y en a peut-être un qu'on préférait écrire, par exemple, moi, à ce moment-là, je préférais écrire celui-là, mais si c'en est un autre qu'on signe, forcément, ben, je vais commencer par celui qu'on va me demander. Ce n'est pas celui que j'aurais préféré écrire à ce moment-là, mais ce n'est pas grave. Ça reste un de mes projets, et je vais devoir en privilégier un plutôt que l'autre. Donc, on est tributaire de ça. Alors que si on a un autre métier à côté, ce qui est le cas de beaucoup d'auteurs, ben voilà, on peut dire, ben, bon, c'est pas grave, d'ici un an, deux ans, trois ans, peu importe.
On a un peu moins de marge de négociation au niveau des contrats parce qu'on a justement toujours ce potentiel couteau sur la gorge.
C'est ça.
Et disons que c'est à la fois une force et une vulnérabilité de faire ça à plein temps. La vulnérabilité, c'est qu'on est dans une. Voilà, je vais prendre un exemple tout bête, mais il n'y a pas de chômage pour les auteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Non, mais voilà, il n'y a rien, quoi. Du coup, forcément, on est extrêmement vulnérable à tout contrat, à toute offre. Et en même temps, je pense que la force qui est, c'est qu'on va déployer une énergie. On aura le temps d'aller faire beaucoup plus de rencontres, d'aller vers les lecteurs, de faire plus de salons. Et après, la réalité, c'est que les seuls décideurs, je pense, à mon sens, c'est les lecteurs. Ce sont ceux qui vont décider de faire ce bouche à oreille sur ce livre, de le porter. Et il y aura probablement un roman préfabriqué qui sort chez un éditeur avec tel titre, etc. Si les lecteurs ne suivent pas, il n'y a rien. Donc pour moi, c'est ça, je pense que la force qui continue de ça, c'est. Je pense que l'authenticité dans un roman se ressent.
Je pense qu'il y a un choix à faire, je sais pas, c'est d'aller de refuser. Par exemple, pour le simulacre, typiquement, j'avais un grand éditeur qui m'a dit, d'accord, je signe, mais il faut tout changer. Là, j'ai dit, non, je préfère payer bien moins et que mon livre ressemble à ce que je veux, ressemble au projet que j'avais, plutôt que de trahir complètement ce que je voulais faire, même si je dois payer trois fois plus. Mais ça, c'est parce que je suis un peu idiot et têtu, mais voilà, je ne veux pas trahir ce que je veux faire, mon œuvre. Et je pense qu'à terme, c'est payant.
Je pense que quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, quand tu écris juste que le roman n'est pas bon, et pas ça, quoi.
Ça s'appelle après, ça s'appelle des mercenaires. C'est un mercenaire, hein, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose
pour l'argent. Un mercenaire peut avoir une éthique.
Mais, oui, un mercenaire, par contre, on le paye très bien. Parce que quand on les paye mal, je ne sais pas, tu te rappelles ce qui s'est passé.
quelles sont les sources d'inspiration.
D'accord.
Vous. Bon, tous les gens qui nous entourent, notre famille en premier, bien sûr, mais après ça, tous les gens qu'on rencontre, moi je pense. Moi, des fois, ça m'arrive de m'asseoir à j'aime bien m'asseoir au terrasse d'un café, et puis regarder un peu les gens autour de moi, surprendre des bribes de conversation. Des fois, ça me donne des idées pour des personnages secondaires. En règle générale, d'abord, ce sont des gens qui sont autour de nous, qu'on va utiliser parce qu'on aime les mettre des fois dans une histoire, mais aussi des gens qu'on ne connaît pas. Ce sont des gens qui avaient des interventions en classe, et puis des fois, il y avait des petits jeunes devant moi, qui disaient, tiens, il est rigolo, une telle ou une telle, et puis ils sont retrouvés dans mon histoire, ils ne le savent peut-être pas, mais ils y sont.
Faites attention.
Attention à vous.
Moi, il y en a aussi peut-être dans les sources d'inspiration, les lectures et les séries. Je trouve qu'il y a des personnages de plus en plus de séries vraiment, vraiment intelligentes et qui nous donnent des sources d'inspiration et pour la création de personnages parce qu'on se dit à tel point j'aimerais bien le développer ou tel point c'est intéressant. Et tout simplement, les histoires, ce soit des personnages qui nous ont marqués, des héros, des vilains, des gens qu'on aurait voulu voir avec parfois, je dirais, évoluer autrement aussi. Il y a une question là-bas. Est-ce qu'à la fin, on est content de nos livres ? Ben, ça m'entend. À la fin, est-ce que tu es content ? À la fin, on est content.
Est-ce qu'on est content de nos livres ?
Alors. Question difficile. Je pense qu'il y a la satisfaction d'être allé au bout de quelque chose. Mettre le point final, on sait qu'on a. Voilà, on est allé au bout de ce long marathon où on est passé par tout un tas de phases émotionnelles différentes, l'excitation, la déprime, l'attente, être coincé, etc. En général, il y a une phase critique au milieu du livre. Mais oui,
j'arrête, je peux plus signer.
C'est le deuxième, c'est le deuxième.
Je ne relis pas personnellement mes romans quand ils sortent, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je pense que quand l'histoire est achevée, la vérité, la vérité, c'est que le prochain roman est toujours le meilleur en fait. Et qu'on est déjà dans une autre histoire, déjà vers un autre projet. Donc évidemment qu'il faut être content de ce qu'on fait dans le sens où c'est une photographie, c'est un roman, c'est le meilleur qu'on pouvait donner à cet instant-là. Même si ça ne nous ressemble plus exactement après, on respecte ce qui a été fait. Mais en général, on est.
Je
pense des perfectionnistes de nature et des gens assez
exigeants
qui vont vers le prochain projet.
Il ne faudrait jamais se relire une fois que le livre a été publié, parce que là, si on prend une coquille ou un truc, on n'aurait pas
lu, on pleure là. La dernière, c'est quand on me demande de choisir des passages d'un roman à lire, elle dit mais non, je n'ai pas écrit ça. Non,
c'est la répétition.
On est content de nos romans, oui, parce que effectivement, c'est un peu l'histoire qui s'achève et après, on passe à autre chose. Enfin, moi, j'ai toujours tendance à passer à autre chose. Et...
On a des débuts aussi, tu sais, à la fin. Oui. On a des débuts quand ils sont terminés, tu sais.
Ah, mais non, mais j'ai pas le temps.
C'est bon,
je suis déjà dans le temps suivant.
C'est une technique.
Tu sais, il y avait un écrit en anglais super connu qui s'appelait Trollope. Et en fait, ce type-là, il était extraordinaire. Il était ingénieur des postes, je sais pas pourquoi il
description. Alors, je dis une description, c'est que vous avez une image mentale dans votre esprit. Il faut que vous la communiquiez à votre lecteur par des mots. C'est quand même un acte magique par excellence, quoi, parce qu'avec ces 26 lettres de l'alphabet et ces 6 signes de ponctuation, vous devez donner, transmettre cette image mentale. Du coup, voilà, j'ai pris tout un tas de photos comme ça, de peintures, et j'ai décrit le Léviathan par rapport à ça et la petite confidence que je viens de vous faire.
Et être suffisamment électrique pour que le lecteur puisse dire que c'est pas s'approprier en plus.
C'est ça. Il faut laisser un espace de liberté tout en posant des touches. Les écrivains vont toucher une retraite. Et là, c'est un sujet sensible.
Ah oui, oui, oui. On les cotise beaucoup pour la retraite, même quand on touche pas d'argent.
Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait, tu sais, du chômage pour les écrivains. On doit peut-être réfléchir à quelque chose, les collègues. Une petite idée à quoi on va se mettre.
Donc, l'écrivain cotise en effet pour ça. Enfin, en fait, bon, je vous donne un détail administratif plus pénible, mais en gros, il y a quelque chose qui s'appelle l'AGSA, qui est le régime. La sécurité sociale et la retraite des auteurs. Seulement, la GSA va ponctionner en fait tous vos droits d'auteur, 8% à peu près, c'est ça, je crois.
Non, c'est 8%,
c'est 8%.
Quoi qu'on gagne.
Il y a un différentiel, c'est-à-dire que vous cotisez, mais vous n'avez pas le droit à la retraite à moins de toucher 8200 droits d'auteur par an. Parce que là, ça veut dire que vous avez cotisé comme des trimestres de retraite, donc c'est. En gros, sur tous les droits d'auteur, j'avais lu une étude comme quoi il n'y a que 3% des auteurs qui vont toucher une retraite ensuite, alors que d'autres auront cotisé, mais sur un livre de temps en temps. Comme il y a très peu d'auteurs qui vivent des livres, il y a aussi des auteurs qui sortent un roman tous les 3 ans, tous les 4 ans, vous voyez. Donc c'est un système très bizarre, en fait, où il y a des gens qui cotisent, mais ça n'offre pas des droits, c'est comme une sorte de cotisation de solidarité. C'est vraiment administrativement très spécial.
Il n'y a pas de palier, c'est-à-dire qu'avant, il y avait, me semble-t-il, il y avait justement 2007 plus ou moins des paliers, c'est-à-dire que plus on gagnait de droits d'auteur, plus on cotisait. Là, maintenant, ça va être 8% que vous gagnez 30 ou 40 000 euros par an, ce qui est totalement, ou 2 000 euros, donc c'est un peu bizarroïde quand même.
C'est intéressant, ces questions sociales, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps, parce qu'il y a... On est dans un gros d'étranglement, des auteurs qui écrivent 2-3 livres par an et qui. Il y a un article qui est sorti dans le Figaro.
4 pour certains qui sont ici, que je connais. Hein.
C'est vrai.
J'écris 4 livres par an quand même.
Oui, bien sûr.
Pour réussir à en sortir.
Il y avait un article dans le Figaro qui disait qu'en fait, donc il y avait. Qui se basait sur la GSA, donc sur ce système, et qui regardait. Et il y avait. C'était 4% des auteurs qui, du coup, étaient affiliés, enfin, qui auraient le droit, du coup, à cette retraite. Et la moyenne des revenus, c'était 14 000 euros par an pour ces auteurs-là. Donc ça vous donne une idée un peu.
C'est ça. Il y en a plein.
Est-ce que vos livres sont traduits?
Les livres sont traduits. J'ai un livre, mon premier roman, qui est traduit en arabe et en hollandais pour l'instant.
Pour l'instant, je crois qu'on n'est pas très très nombreux à être traduits pour le moment. Or, tous on rêve d'être traduits en anglais.
Parce que, c'est le
rêve de tous les auteurs. Parce que ben, ça représente un lectorat potentiel quand même. Mais il faut bien dire ce qui est les auteurs français traduits en anglais. Il n'y en a pas beaucoup.
Il y a Pierre Pével.
C'est ça.
Et toi, tu es traduit en allemand.
Oui, pour ceux qui nous lisent, qui est celui-ci, il est sorti en Allemagne au mois de janvier.
Alors, pas du tout, et c'est passé à mes envers parce que je viens de faire une causerie avec Timothée de Fombel aux étonnants voyageurs à Saint-Malo. Non, pas du tout, j'avais écrit Paillé avant, tout simplement, mais il se trouve que tous les deux, alors on n'a pas du tout la même approche justement, mais il a une approche plutôt, pas magique, mais un peu plus merveilleuse, alors que moi c'est très réaliste, hein. Je veux dire, des insectes, lui, plutôt les insectes sont assez sympathiques dans son récit. Ils ne sont pas assez comme ça, pas du tout, c'est des insectes, c'est des prédateurs, pour les humains, c'est de la viande à 5 bras, hein, peut-être, mais voilà, pas plus, quoi, ils mangent, quoi. Les fourmis, pour lui, par exemple, dans l'histoire, sont très sympas, ils ne sont pas sympas, c'est une fourmilière, ça fonctionne, et si on se retrouve à côté, elle a pas de chance, quoi, dommage pour elle, voilà, on est de la viande. Donc c'est très, on a une approche très, voilà, très différente des choses, et non, je ne l'ai pas lu, mais il se trouve qu'il y a une convergence. Il y a plein de récits d'hommes miniaturisés, je veux dire, c'est quelque chose qui est fascinant. Dans la littérature, au cinéma,
temps ça nous prend pour faire
un livre.
Ouais, moi, je te dirais que ça dépend énormément du roman. Ça peut aller de un mois quand c'est un roman court ou un roman, parce qu'il y a certains romans qui s'écrivent vraiment d'une traite, on a l'impression d'être porté par l'histoire. Par exemple, si j'étais un rêve, c'est un roman que j'écris très très rapidement. J'avais l'histoire en tête depuis longtemps. Et une fois que j'ai commencé à écrire, j'étais tous les jours sans jamais aucune sensation de lassitude. Et donc celui-là s'écrit très 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 rapidement. Pour une tatouée, donc j'avais gagné le prix, imaginez des collégiens, j'ai mis 3 mois. Et j'ai terminé il n'y a pas très très longtemps un gros roman historique qui là m'a demandé énormément de recherches. Et puis en plus, c'est pas une période, je choisis la Première Guerre mondiale, je ne sais pas ce qui m'a pris. En plus, c'est quand même la période de l'histoire que je connais le mieux et ça m'a pris 8 mois. Et voilà, donc ça dépend vraiment complètement de ce que tu mets, de la période, de l'instant, de. Voilà.
Comme Charlotte, ça dépend vraiment des romans. Hein. Un roman comme Oraison, en tout, ça m'a pris 2 ans. Voilà, Souvenir perdu, j'ai dû mettre 4 ou 5 mois. C'est très, très variable.
Même chose, mais par exemple, les deux extrêmes sont là, la Prairie 1 et 2, les deux, parce que c'est parce que je l'écris, c'est le prêtre. Ça m'a pris à peu près un an à écrire. Hein. Et Simulacre à côté, le premier qui est sorti en 1 mois, il est sorti tout seul. Ça dépend vraiment des romans. Il y en a qui sortent, voilà,